Bienvenue à tous dans le nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière de vous livrer des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Dans ce dernier épisode de Droit Devant, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Chignard. Adrien est psychologue du travail et fondateur de Sens et Cohérence, un cabinet qui intervient dans la prévention des risques psychosociaux. À l'occasion de la sortie de son livre, Bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir, Adrien nous explique son quotidien et détaille les situations dans lesquelles des employeurs ou les représentants du personnel vont faire appel à ses services. Il nous explique ainsi l'importance de solliciter l'intervention d'un expert en risques psychosociaux en cas d'arrêt de travail à répétition, de performance en berne ou encore de dégradation de l'ambiance de travail. Dans le contexte actuel où 35% des travailleurs se disent stressés et où plus de la moitié des arrêts de travail sont dus au stress, eh bien Adrien nous donne les clés pour mieux gérer sa charge mentale. Savoir comment réagir face à des sollicitations intempestives de sa hiérarchie ou encore adopter la bonne attitude face à des questions inappropriées et notamment la sempiternelle question que nous avons tous entendue autour de nous ou vécue parfois, à savoir « tiens, tu prends ton après-midi » quand un collaborateur décide de quitter son poste plutôt que d'habitude. Bref, un échange concret et ponctué de conseils utiles. Merci à Adrien pour sa générosité. Je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Juste avant, je profite de cette introduction pour vous remercier chaleureusement des avis et des étoiles que vous nous laissez sur iTunes. Le dernier avis a été laissé par Croqual. Je suis avec grand intérêt ce podcast en tant que praticien du droit du travail. Je suis conseiller prud'homme en section encadrement. Je trouve vos synthèses thématiques très bien construites, très éclairantes et vos émissions avec des invités. Je découvre des personnalités inspirantes. J'en tire des conseils pertinents. C'est un podcast indispensable si vous êtes intéressé par le droit social. Un très chaleureux merci à l'avocate qui nous fait partager sa passion, qui est aussi un peu la nôtre. Donc, mille merci à Croqual. Faites comme lui, laissez-nous un avis sur iTunes ou une note 5 étoiles afin de nous permettre de diffuser encore plus largement ce support. Très bonne écoute. Alors, bienvenue Adrien dans Droit Devant.
Merci Marie-Laure.
Adrien, donc tu es psychologue du travail et fondateur de Sens et Cohérence. Donc tu es à la tête d'un cabinet qui intervient dans la prévention des risques psychosociaux qu'on appelle communément RPS. Et donc pour les auditeurs, les RPS, ce sont des risques pour la santé physique ou mentale des travailleurs, donc les violences, le harcèlement moral, sexuel par exemple, l'épuisement professionnel également. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des situations dans lesquelles ton intervention va être sollicitée ?
En fait, mon équipe et moi, on intervient aux trois niveaux de la prévention, ce qu'on appelle primaire, secondaire et tertiaire. Pour nos auditeurs, c'est avant, pendant et après que ça brûle. Si on prenait l'image du risque incendie, avant, tu vas regarder dans une pièce, si tu veux, les fils électriques dénudés, parce qu'on sait que ce sont les arcs électriques qui provoquent des départs de feu. Donc, on est avant le départ du feu. Sur les risques psychosociaux, je vais aller dans des collectifs, dans des usines, dans des entreprises qui souhaitent mettre en lumière les facteurs de risque organisationnel qui peuvent précipiter des situations de stress au travail ou de troubles psychosociaux, comme tu les as dit avant. Trop de charges de travail, une charge mentale forte, pas assez de soutien managérial, des rôles opaques, un sentiment d'injustice, enfin tout, il y a une trentaine de facteurs de risque qui peuvent concourir à des situations de mal-être ou de souffrance en situation de travail. Si je file ma métaphore du risque incendie en prévention secondaire, on va développer les compétences des sauveteurs secouristes au travail qui, lorsque ça brûle, vont pouvoir orienter les salariés vers des points de ralliement et les mettre en sécurité. Eh bien, pour la prévention des risques psychosociaux, c'est former, sensibiliser les collaborateurs, les managers, les codires et les comex sur comment peut-on avoir des comportements sains, comment être préventeur de soi comme des autres en situation de travail, comment réagir lorsque stress il y a. Et puis, parce que la vie est ainsi faite que tu as beau prévenir, former, il y a toujours une faible probabilité, en tout cas, elle est meilleure quand elle est faible, que passent entre les mailles du filet certaines personnes qui vont qui vont déclencher des problématiques de santé un peu plus fortes. Tu as parlé de l'épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out, des tentatives de suicide, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire en situation de travail. Et donc là, on met en place soit des dispositifs de soutien psychologique sur site, soit des dispositifs qu'on va appeler post-traumatiques après un décès, un suicide, un viol, une agression, un assassinat, enfin tout ce que le monde du travail peut faire de pire. Donc voici, nous, les différents champs sur lesquels on intervient. Et moi, plus particulièrement, j'interviens sur tout ce qui va être structuration des politiques de prévention. C'est-à-dire que j'interviens dans le dur, dans tout ce que je viens de te dire, mais aussi pour aider les entreprises à structurer une façon de mettre un pied devant l'autre sur les risques psychosociaux qui soit la plus efficace possible, ou devrais-je dire, avec un peu plus d'humilité, la moins déceptive possible.
D'accord, donc très clair. Alors, en réalité, donc, ce que tu nous expliques, c'est que tu fais en quelque sorte une forme d'audit en amont, et puis après que tu éventuellement dispenses des formations, et enfin que tu fais de l'assistance si jamais tu es amené à intervenir dans une situation qui est déjà un peu obérée en réalité.
Ah, c'est à peu près ça, oui.
Et concrètement, pour qu'on arrive à imaginer en quoi ton travail consiste, est-ce que tu peux, par exemple, nous parler d'une situation en particulier qui t'aurait marqué, que ce soit par sa, je sais pas, soit par sa violence, soit par sa singularité, soit parce que malheureusement elle est trop courante, elle se reproduit de manière très régulière. Est-ce que tu peux nous parler d'un dossier que
tu as
suivi ?
Oui, bien sûr. Bah, je peux parler des dossiers que je traite le plus fréquemment. C'est lorsqu'on m'appelle bien souvent un peu tard en me disant « Écoute, Adrien, on a une équipe là, de 15-20 personnes. Ça fait un an et demi qu'on sent que ce n'est pas trop la fête à l'intérieur de l'équipe. Les gens se parlent de moins en moins. La coopération est un peu délitée. On sent un management qui commence à reculer. Les managers de proximité n'osent plus rien dire. Et puis… là, ça y est, ça fait quelques semaines qu'on enchaîne arrêt de travail sur arrêt de travail. Les gens reviennent et explosent dans les couloirs. On entend des mots difficiles en réunion. Les gens ne veulent plus venir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, cette situation, elle est assez caractéristique des sujets pour lesquels on m'interpelle, parce qu'on voit qu'il y a une démotivation forte, des arrêts de travail nombreux, une performance qui tout doucement décroît, et puis un collectif de travail qui est en panne avec une régulation qui n'a pas eu lieu à temps. C'est-à-dire cette forme de pensée magique, Marie-Laure, qui laisse imaginer qu'un collectif qui va mal va se réparer tout seul. Mais un collectif qui va mal, c'est comme une histoire d'amour qui va mal. C'est-à-dire que dès qu'une relation va mal, il s'agit de prendre en considération tout de suite le sujet pour qu'un petit conflit ne devienne pas un hyper-conflit qui, dans une relation, amènera au divorce et dans une relation professionnelle, arrivera soit à des heurts, soit à des mobilités, mais de toute façon à des situations qui sont délicates et qui desservent les êtres humains en situation de travail comme l'employeur, parce que l'employeur voit la valeur décroître. Or, l'unique vocation d'une entreprise, c'est de produire de la valeur. Simplement, pour produire de la valeur, il faut des gens qui sont en santé.
Non, mais alors, c'est très vrai ce que tu dis. Et puis, c'est intéressant parce que tu l'abordes sous l'angle de la productivité. Comme un peu, enfin, j'ai lu un petit peu certains de tes articles ou de tes interventions, et puis on en a discuté aussi, et je vois que cet axe, ce prisme de la productivité, il est très fort dans tes travaux. Et c'est bien parce que c'est aussi un argument de conviction pour faire converger en fait les intérêts des employeurs et ceux des salariés en réalité. Cet axe productivité, il est bien entendu audible pour les entreprises. Une entreprise qui se veut performante, c'est une entreprise évidemment où, comme tu le dis, les arrêts de travail sont pas trop nombreux, ou en tout cas sont limités sur des périodes courtes ou de façon très ponctuelle.
Mais parce que quand on éteint la lumière du bonheur au travail, ce qu'il en reste, c'est la nécessité de produire de la valeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discours plutôt enjoliveurs sur ce que sont les situations de travail ou la façon de se réaliser au travail. Bon, c'est du marketing RH et pourquoi pas, il en faut probablement pour celles et ceux qui vendent ça, je ne veux pas juger. Ce que je dis, c'est que la seule et unique vocation d'une entreprise est de produire de la valeur. Mais même sans ces cohérences, nous sommes que des psys, on est 17 psys, notre seule vocation est de produire de la valeur. La question, c'est en vendant quoi et comment ?
Oui.
Et prendre soin des risques psychosociaux, ce n'est pas de la gentillesse. Enfin, je veux dire, ça serait de la mièvrerie de penser ça. On s'en fiche d'être gentil. Il s'agit à la fois de respecter le 41-21 du Code du travail, mais ça, c'est plutôt ton domaine de compétence, mais aussi faire en sorte que l'entreprise puisse persévérer dans sa raison d'être.
Ouais.
Et sa raison d'être, c'est créer de la valeur. Et là encore, pas de dogmatisme dans mon propos, hein, Marie-Laure. Va bosser avec 42 fièvres, tu verras si tu peux être productif en étant en mauvaise santé. Bah, bien sûr que non. Donc, il ne s'agit pas de préserver la santé pour être sympathique ou gentil. Il s'agit de préserver la santé pour continuer à produire de la valeur, ce qui est la seule raison d'être d'une entreprise.
D'accord, d'accord. Alors, concrètement, moi, je vois dans ma pratique que ce sont souvent les élus du CSE qui peuvent solliciter l'intervention d'un expert en risques psychosociaux parce que, par exemple, ils vont être, une situation délicate va être identifiée ou même qu'ils vont être, ils vont décider, tiens, typiquement, de déclencher leur droit d'alerte. Et c'est vrai que, après avoir déclenché cette alerte, ils se sentent souvent dépassés parce que mener une enquête pour des élus ou des représentants du personnel, c'est pas simple dans un contexte où parfois les faits qui ont donné lieu à l'enquête, typiquement si on parle d'agissement de harcèlement, ces faits-là peuvent être commis par les plus hautes instances de l'entreprise. Donc, on délègue cette mission-là à un cabinet qui peut intervenir sur les risques psychosociaux. Ça, c'est l'une des hypothèses dans laquelle je vois parfois l'intervention de toi ou de tes pairs. Je suppose que l'entreprise a aussi régulièrement recours à vos interventions. Est-ce que tu peux me dire dans ton cas, en fait, quelles sont les personnes qui te sollicitent le plus fréquemment et puis quel type de mission elles te confient quand on est comme ça un petit peu dans l'urgence, en fait. Je suppose que là, on n'est plus sur de l'audit ou de la prévention.
Alors, moi, j'ai trois types de sources des demandes. La première source en termes de fréquence, c'est l'employeur. Et bien souvent, via son DRH, son directeur des relations sociales, qui me sollicite par rapport à une situation dégradée. Le deuxième type de sollicitation, ce sont les élus, qui effectivement vivent des situations qui sont dégradées. J'ai la chance de travailler dans des entreprises plutôt d'un bon niveau, où il arrive que élus et direction m'appellent en même temps. Et enfin, troisième source, les services de santé au travail ou les médecins du travail qui m'alertent pour des situations qui sont en général très dégradées. Ça répond à une question que me posent toutes celles et ceux pour lesquels je travaille et qu'on m'a encore posée hier en CSSCT en me disant « Mais Adrien, sans ces cohérences, vous roulez pour qui ?» La réponse est très simple. Je peux être le matin à l'UNSA, CGT, FO, le soir au MEDEF, ça m'est égal. En fait, je roule pour toutes celles et ceux qui font de la santé au travail un axe de développement prioritaire et de préservation de la compétitivité de nos entreprises. Donc très concrètement, toutes celles et ceux qui feront de la santé au travail un sujet important me trouveront comme un allié et quelle que soit leur idéologie majoritaire. Ça m'est égal. Je n'ai pas besoin de ça pour travailler.
Pas de dogmatisme et juste une préoccupation majeure, c'est la santé au travail en réalité.
Mais parce qu'en fait, je ne sais faire que ça. Je suis un garçon monocompétent et les autres sujets sont des sujets périphériques à ma compétence initiale. Et donc, je laisse à celles et ceux qui sont les plus compétents sur les sujets travailler dessus. Moi, je n'ai pas de valeur ajoutée et je suis naïf sur ces autres sujets. Donc, mon avis étant une opinion, il a assez peu d'intérêt. Deuxième chose par rapport à ta question, enfin en tout cas, deuxième réponse par rapport à ta question, sur quoi on nous sollicite. Alors, malheureusement, depuis 2 ans, on voit une hausse considérable de ce qu'on appelle les enquêtes éthiques, les alertes éthiques, les enquêtes harcèlement, si tu veux, à tel point qu'il y a 6 mois, on a décidé d'en faire un département spécifique chez Sens et Cohérence, de former tous nos consultants. Et là, on a encore 2 demi-journées de formation prévues avant la fin de l'année pour se perfectionner sur les sujets, parce qu'on voit que la jurisprudence évolue, on voit que les avocats travaillent beaucoup dessus et on travaille avec des amis avocats dessus également, parce que je crois qu'on a une complémentarité des approches qui est précieuse, que le psychologue doit savoir rester à sa place sur certains sujets et qu'il a besoin de l'avocat pour venir ancré dans une pratique correcte, on va dire, les propos qu'il tient. Donc ça, c'est une grosse source de sollicitation et je vois, moi, aujourd'hui, une assez grande fréquence des sollicitations pour des collectifs en grande difficulté. Là, en ce moment, moi, je dois avoir dans mon équipe à peu près 30 de situations comme ça sur lesquelles on intervient. Et enfin, moi, Adrien, je suis très, très, très sollicité, mais je n'ai jamais vu ça, sur des conférences pour sensibiliser, prévenir, parce qu'il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de traiter ces sujets-là. Alors, pas parce qu'on s'est réveillé un matin en se disant « Tiens, les risques psychosociaux, c'est sympa ». Tout simplement parce que post-pandémie, si tant est qu'on soit post-pandémie, Marie-Laure, celles et ceux qui souhaitent retrouver des modes d'organisation assez… on va dire antédiluvien, assez archaïque, je vais dire ça comme ça, voit qu'en fait, il n'attire plus personne. Et que si on veut attirer des talents, comme on dit, alors je ne sais pas trop ce qu'est un talent, mais si on veut recruter des personnes qui vont contribuer à la pérennité de l'entreprise et à son développement, il faut avoir des conditions de travail correctes. Et donc, on le fait pour ces raisons-là, et c'est heureux, moi, je trouve.
D'accord. Ok, pour s'inscrire dans un climat vertueux et bienveillant, et puis, comme tu dis, attirer les talents et cultiver sa marque employeur. Alors, on va parler un petit peu plus précisément de ton actualité et de la sortie de ce livre tout récent, Bien dans votre job, les 25 astuces du psy pour éviter d'aller le voir. Et c'est un livre qui commence par un constat un peu sombre. La France serait l'un des pays où les salariés ressentent le plus de stress et de mal-être dans leur environnement professionnel, avec plus de la moitié, on en parlait tout à l'heure, donc des arrêts maladie qui sont liés au stress, et 35% des travailleurs qui se disent stressés. Alors, ben, au-delà de ces chiffres, toi qui es un expert terrain, est-ce que tu partages ce constat chiffré dans ton quotidien d'expert ?
Bah, très concrètement, ces chiffres sont issus de la préface rédigée par le docteur et psychiatre Patrick Lageron. Ce ne sont pas ces chiffres, hein, ce sont les chiffres des enquêtes européennes. Moi, je vois que la santé mentale des travailleurs français depuis 2 ans s'est quand même considérablement dégradée, pour des motifs qui sont aussi périphériques aux situations de travail, hein, mais des motifs de pandémie qui a un impact sur les collectifs de travail, la façon de produire, l'intensification des rythmes, des horaires à rallonge et puis un délitement des collectifs de travail. Donc, nous, pour te donner un indicateur très concret, notre activité est en augmentation de 214% depuis le début de la pandémie. Donc, on fait face à une hausse des sollicitations qui est considérable, que je m'attendais à avoir une hausse, mais une explosion comme ça, non, je ne m'y attendais pas. Et effectivement, la santé mentale de nos compatriotes en situation de travail n'est pas reluisante.
D'accord. C'est vraiment le constat que tu fais au quotidien. Et puis d'ailleurs, on le voit hein, dans l'actualité sociale avec le phénomène dont on a beaucoup parlé aux US sur la grande démission qui a été qualifiée de l'autre côté de l'Atlantique avec des salariés qui... je voyais les chiffres, c'était assez incroyable. Hein, 3% de la population salariée qui démissionne chaque mois. Et je lisais un article sur Welcome to the Jungle qui racontait qu'en fait, on avait des affichettes aux États-Unis dans les magasins qui proposent de recruter n'importe qui veuille bien travailler. Donc, 11 millions de postes vacants aux États-Unis. Est-ce que, alors d'abord, cette vague de départ qui semble pas se terminer là-bas, est-ce qu'elle te semble arriver en France? Et puis, comment tu l'expliques ? Est-ce que tu as une explication sur ces...
Alors, j'en ai une, mais qui n'a pas vocation à être, un, parole d'évangile, et deux, exhaustive. En tout cas, moi, je vois à mon petit niveau quelque chose de très simple. J'ai créé Sens et Cohérence il y a 9 ans. En 9 ans, mon taux de turnover est très simple à mémoriser, c'est 0%. Pour une raison, alors tu vas trouver ça incroyable, mais je paye les gens bien, je les paye très vite. Et je fais en sorte qu'ils aient des conditions de travail qui, dans le conseil en tout cas, j'ai une logique régionale où les uns et les autres n'ont pas à se déplacer beaucoup, n'ont pas à être dans les transports, dans les avions, dans les trains, dans les taxis, travaillent à proximité de chez eux, ils sont formés, toutes les semaines je les appelle pour savoir comment ça va et comment je peux leur être utile. En gros, moi je me considère comme un patron, mais comme un porteur d'eau. C'est-à-dire que je suis là pour faire en sorte que mon équipe n'ait pas soif. Je suis là pour être au service des autres. Et en fait, quand on donne des conditions de travail de qualité aux gens, incroyable Marie-Laure, ils restent. Et donc, qu'est-ce que l'on voit partout ? Bah, on voit que toutes les entreprises qui offrent des conditions déplorables, qui sont moins disantes d'un point de vue des conditions de travail, je ne parle pas que du salaire, ça en fait partie bien entendu, mais de la reconnaissance, de l'autonomie, de la montée en compétences, du développement de l'employabilité, de ce qu'on va appeler nous un climat de sécurité psychologique, ces entreprises-là ne voient pas cette grande démission. Celles et ceux qui voient les grandes démissions, c'est celles et ceux qui ont considéré qu'on pouvait être moins 10 ans d'un point de vue de la justesse et de la justice des organisations du travail qu'on met en place et qui aujourd'hui se prennent un retour de bâton. Mais même si c'est une pensée magique de dire ça, un jour ou l'autre, on s'assoit toujours à la table des conséquences des décisions qu'on prend. Et ça n'est que le début.
Après, alors effectivement, hein, il y a tous ces comportements déviants qu'on peut souligner pour expliquer les départs, mais il y a aussi le comportement qu'on a et qui est inadapté sans qu'on le sache. Je m'explique. Je vois dans ton livre un exemple qui est hyper parlant selon moi, c'est-à-dire que toi, tu expliques qu'en fait, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui va formuler de façon passive « Ok, ben, si vous avez une difficulté, venez me voir, la porte est toujours ouverte. » Et en fait, ce que tu expliques, c'est que ce comportement-là est trop passif dans le management et qu'il faut pas se contenter de dire « Ma porte est ouverte », il faut concrètement aller à la rencontre des gens pour leur dire « Est-ce que tu as un sujet ? Est-ce que tu veux qu'on l'aborde ?» Donc, on peut aussi mal faire en voulant bien faire. C'est ça que je veux dire.
Bien sûr, c'est ce que j'appelle des bienveillants maladroits. Et les bienveillants maladroits, les entreprises en sont pleines, mais c'est logique. C'est-à-dire que La plupart de celles et ceux que je rencontre au quotidien se lèvent pas le matin en se disant « Tiens, si j'avais une vie pourrie et si j'allais pourrir la vie des autres. » Je crois que sincèrement, tout le monde essaie de faire de son mieux dans ce monde et que c'est compliqué. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des jugements de valeur. Il s'agit de se dire qu'est-ce que l'on met en place pour être un manager qui offre le minimum de ce que demande le management, c'est-à-dire du soutien à son équipe. Le manager est là pour soutenir son équipe. Et la soutenir, c'est lui permettre de progresser, d'avancer, de se cheminer, de se montrer plus audacieuse, puis à la conquête de nouveaux marchés, si on se parle de ça. Moi, je vois beaucoup de managers, et c'est ma conférence que je vais donner demain, qui sont effectivement ces bienveillants maladroits, qui sont ce que j'appelle les antipathiques bienveillants. C'est ces managers à qui on dit « mais oh, je flippe parce qu'il faut que j'aille faire une présentation en COMEX » et qui te répondent « mais non, mais t'as pas de raison de flipper, ça va le faire. » Ça se veut bienveillant. L'idée, c'est de te rassurer, sauf que c'est antipathique. C'est de l'antipathie.
Je préfère me dire que ça va bien se passer parce que comme ça, j'ai pas à aller au charbon et à t'aider potentiellement à préparer ta conférence, quoi.
C'est oui, ça que tu veux. Et je nie ton émotion. Tu me dis j'ai peur, je te dis que tu n'as pas de raison. Bah oui, mais la question, c'est pas de savoir si j'ai une raison ou pas. Moi, j'ai peur, en fait. Et donc, il n'y a pas d'accusé de réception et il n'y a sûrement pas ni de l'écoute, ni de la considération, ni de l'aide dans tout ça. Donc, ce que je dis, c'est qu'il s'agit non pas de tirer à boulet rouge sur le management. Enfin, ça serait complètement déloyal et absurde et surtout stérile. L'idée, c'est d'être lucide sur ce qui manque et voir comment on peut aider les managers à développer des compétences additionnelles qui leur permettent de mieux se positionner.
Oui, très clair. Et j'ai vu aussi dans une de tes publications que tu parlais dans les causes que tu identifies du mal-être ou de l'épuisement professionnel, il y en a une que tu définis particulièrement en disant voilà, la surcharge de travail, c'est la plus spontanément invoquée comme cause de mal-être. Et tu parles d'un phénomène dont on est tous victimes, qu'à titre personnel, je vis au quotidien, mais qu'on vit tous en réalité, qui est, j'aime le nom que tu lui donnes, je le trouve complètement approprié, c'est les sollicitations pirates.
Oui.
Et donc, dans l'illustration que tu donnes, c'est hyper révélateur. Tu dis un manager en France, en réalité, est dérangé en moyenne toutes les 6 minutes et il lui faut 60 secondes pour se reconcentrer. Donc, oui. Comme tu as toujours ce prisme de la productivité, tu parles de déperdition d'efficacité en réalité. Et c'est très vrai. Alors, comment concrètement on lutte contre les sollicitations pirates? Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour lutter contre ça, justement?
Bien sûr, c'est la question de la charge mentale, la question que tu poses, parce que ces sollicitations pirates, c'est ce qui morcelle ton activité, ça tire dans tous les sens dans ton agenda et tu as du mal à avoir des temps de vigilance durable et accru, ce qui te permet, pour des métiers, mais ça vaut pour tous les métiers, aucun métier ne nécessite aucune attention. Donc, on devrait toujours prendre soin de notre mémoire à court terme et de notre attention parce que ce sont les deux déterminants de l'efficacité d'un point de vue cognitif. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle ces sollicitations pirates, ça tire dans tous les sens. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Premièrement, je vais prendre mon exemple puisque moi, là-dessus, c'est un des rares sujets sur lesquels je suis un peu exemplaire dans mon métier. Moi, je ne commence jamais ma journée par ouvrir ma boîte mail. Je commence ma journée par travailler 1h30 en mode avion où je traite mon plus gros sujet de la journée. Comme ça, alors moi, je commence mes journées très tôt puisque mes enfants se lèvent très tôt, mais comme ça, à 9h30, globalement, 9h30, la grosse partie de ma journée qui était importante est faite. Elle est derrière moi. Là, j'enlève le mode avion et j'ouvre ma boîte mail. Ce qui me permet de ne pas me laisser pirater par toutes les sollicitations intempestives des uns et des autres, mais de me focaliser sur le sujet le plus important. Ça, c'est le premier des points. Deuxième point, je passe ma vie en mode avion ou en mode ne pas déranger. Mon téléphone est à 70% du temps en mode ne pas déranger. Je note ce mode que lorsque j'accepte d'être dérangé. Mais c'est moi qui choisis. Et ça peut paraître dingue, Marie-Laure, mais si je te pose la question, mais est-ce que toi, j'imagine que tu vis comme moi en région parisienne peut-être, est-ce que toi, en région parisienne, tu laisses la porte de ton appartement ouverte toute la journée? Ben non, tu ne l'ouvres que lorsque tu as des invités à faire rentrer, j'imagine. En tout cas, j'espère. Ben, c'est pareil pour un téléphone. Et puis, la dernière des choses, c'est que… Alors, il y a plein d'exemples et plein de méthodes que je pourrais développer, mais quelque chose qui est important, c'est de se dire on a besoin de sanctuaires de concentration, des temps dans la semaine, mais qu'on a élaboré en équipe. Là, je viens de faire ça dans l'agroalimentaire la semaine dernière, où on a pris une équipe d'une quinzaine de personnes et on s'est dit maintenant, tous les mardis matin et tous les jeudis matin, pendant 3 heures, pas de réunion. Pas de mail, pas de téléphone. C'est 3 heures où toute l'équipe, chacun des membres de l'équipe, a 3 heures de concentration durable pour dérouler ces gros sujets. Et cette norme, on la crée collectivement pour que ça nous solidarise autour d'un projet commun, pour que les écarts à la norme deviennent plus rares que véritablement fréquents, ce qui va nous permettre tout doucement d'ancrer ces nouvelles pratiques et d'avoir des plages de concentration durable propices, là encore, à la productivité.
Bon, alors écoute, je vais essayer de me les appliquer, hein, tous ces conseils. Je ne sais pas si je vais y arriver, tu sais, c'est une pathologie en réalité, hein, de cette addiction qu'on a tous développée aux réseaux sociaux, à l'utilisation abusive de son téléphone, de sa boîte mail. Ça s'appelle la norophobie, donc ça a même été nommé en fait. Et c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Moi, je me suis déjà fait, je me suis déjà essayé de m'astreindre à cette gymnastique, de me dire, ok, j'arrête de me faire polluer par des sollicitations que je ne désire pas. Mais en réalité, c'est vraiment un exercice difficile.
Il y a quelque chose qui est important par rapport à ce que tu dis, ce qu'on appelle fear of missing out, hein, FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Moi, je sais que j'ai deux règles que je donne parfois à certains membres de CODIR ou de COMEX, où tu prendrais leur tension artérielle, tu tomberais dans les pommes, où tu te dis, mais en fait, vous ne décidez plus. Vous êtes en situation de décision, mais vous ne décidez plus des sollicitations. Donc, allez revendre cette montre connectée tout de suite. Déjà, ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. Allez revendre cette montre connectée tout de suite. Et deuxièmement, moi, je suis possesseur d'un téléphone à la pomme, mais je pense que c'est le cas pour, enfin, je sais que c'est le cas pour tous les OS, les opérateurs système, désactiver 100% des notifications. Bon sang, c'est incroyable que ça soit la machine qui vienne capter ton attention. Moi, je vis en mode avion et 100% des notifications de mon téléphone sont coupées.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, en tout cas, ton livre, clairement, donne des aides très concrètes sur toutes les situations de mal-être qu'on peut vivre au quotidien. Alors, bon, moi, j'en ai retenu quelques-unes, mais tu vois, par exemple, quand tu es sollicité par un patron un peu intrusif qui, le week-end, t'envoie des mails. Bon, voilà, il y a tout un tas. Alors, c'est très bien fait parce que c'est vraiment décortiquer, c'est-à-dire que tu analyses des causes, tu décortiques le sujet, puis ensuite tu proposes des solutions avec des tableaux très clairs. Donc voilà, moi j'ai retenu celle que j'ai beaucoup vue, et alors je vais te demander si ça te convient de nous expliquer comment on réagit dans ce cas-là. C'était celle relative au fait que ton manager te demande si tu as pris ton après-midi quand tu pars à 18h. Elle est très emblématique celle-là, du passif-agressif. Est-ce que tu peux nous dire comment on réagit dans une situation pareille?
Déjà, la première des choses à avoir à l'esprit, c'est que ça n'est pas une blague. Hein, souvent, c'est dit sur le ton de l'humour, mais rappelons que la vocation de l'humour, c'est de faire rire, et ça n'a jamais fait rire personne. Donc, désolé pour celles et ceux qui se pensaient hilarants en faisant usage de leur pouvoir de cette manière-là, ça n'est pas hilarant. Je crois que c'est Churchill qui disait que celles et ceux qui pensent que le pouvoir est marrant confondent le pouvoir et l'abus de pouvoir. Et profiter d'un lien de subordination dont on jouit de la hauteur pour faire ce genre de réflexion culpabilisante à autrui, ça en dit plus de celui qui le dit que de l'autre, hein, sur la petitesse du comportement. Ça, c'est la première des choses. La première information que j'ai envie de donner, c'est de réprimer son envie naturelle, qui est d'aller donner une claque, gifler ou insulter celui qui nous dit ça. En tout cas, les peu d'années où j'étais salarié et où mon premier manager me faisait ce genre de réflexion, j'étais pas nécessairement dans « dites-le avec des fleurs ». J'avais plutôt envie de le dire « mes pauvres types, essaie d'avoir une vie plutôt que de nous casser la nôtre ». C'est pas nécessairement ce qui m'aurait permis une promotion ou une évolution de carrière, et répondre à quelqu'un qui vous fait ce genre de réflexion par l'agressivité, jamais une bonne façon de fonctionner. Simplement, je me sentais privé du respect élémentaire qui m'était dû comme salarié. Et donc, quand on est frustré du respect élémentaire, on va générer, c'est le modèle de Berkowitz en psychologie, une agressivité. L'idée, c'était de prendre ce temps justement pour, moi, redescendre un petit peu. Et puis, à la fin, j'avais trouvé une astuce. Alors, je ne vais pas dire tout ce que dit le bouquin, mais une astuce qui était de dire à mon boss, écoute, j'ai fini mon travail pour la journée, il est bien fait, et donc moi j'ai besoin d'aller profiter de la vie pour être en forme demain. Ça m'inquiète que tu restes tous les soirs aussi tard, toi de ton côté, viens boire un coup avec moi, ça nous permettra de passer un bon moment. Et je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai arrêté les réflexions, moi aussi en mode passif-agressif, ou même parfois juste en mode passif, en baissant les yeux, en partant la queue entre les jambes, ou en restant bosser un peu plus parce que je me sentais coupable, le jour où j'ai inclus mon boss dedans, où on est allé en parler, j'ai vu tout doucement que son comportement évoluait. Mais ce qui est important, Marie-Laure, à l'esprit, c'est que pour qu'un comportement évolue, il faut que la représentation en amont de ce comportement change. Et c'est ça qui était problématique, moi, chez mon premier boss, mais comme chez toutes celles et ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont une représentation de ce qu'est le travail qui est très centrée sur le présentéisme la quantité d'heures passées au travail. Or, d'un point de vue cognitif, c'est une hérésie. Se concentrer plus de 45 minutes, c'est quasiment impossible.
Non, mais on a encore tous ces marqueurs qui sont quand même très présents du fait que ton engagement est lié intimement au temps que tu passes dans l'entreprise. Quoi qu'on dise, c'est encore très implanté, quoi.
Et moi, ça m'étonne toujours quand des clients ou mon banquier m'appellent à 14h en me disant « j'ai essayé de vous appeler deux fois ce midi, vous étiez en vacances ». Je leur dis « non, je faisais une sieste ». Il dit « ah bon, pourquoi ?» Je dis « vous ne voudriez pas faire pareil ?» Il me dit « oh si, quand même, ça serait bien ». Mais moi, je suis chef d'entreprise et j'ai compris il y a 9 ans qu'en fait, mon objectif était hebdomadaire. Moi, toutes les semaines, 100% des semaines où je travaille, bien sûr, depuis 9 ans, j'ai 3 demi-journées dans mon agenda qui s'appellent journée buffer. Ce sont des tampons. Ça sert tout simplement à absorber les surcharges ponctuelles d'activité parce que le propre du travail, c'est de te surprendre. Tu fais des plans et puis ça ne se passe pas comme tu avais prévu. Mais c'est le cas dans toutes les professions. Et donc, même quand tu es opérateur sur une machine, on va dire, automatique ou semi-automatique, c'est-à-dire que tu vas avoir une maintenance, une panne, un problème d'appro-matière ou quoi que ce soit. Donc, c'est Christophe Dujour qui dit « travailler, c'est échouer », c'est-à-dire faire face, on va dire, aux vicissitudes d'un quotidien qui sont par nature imprévisibles. Moi, je me suis dit, plutôt que toutes les semaines de pester en disant « oh, faut encore que je rentre tard ce soir parce que je n'avais pas pensé à ça », très sincèrement, je suis chef d'entreprise, j'ai 17 personnes maintenant dans mon équipe. Ça doit faire 8 ou 9 ans que je ne suis pas rentré chez moi après 17h30. On a oublié d'inclure les plages et les temps de gestion des aléas dans les agendas.
Donc, anticiper sa charge de travail et puis moins se laisser prendre par l'imprévu, en réalité.
En fait, c'est prévoir dans son agenda des temps de gestion des aléas parce que les aléas sont consubstantiels à l'activité.
Ok, très clair. Alors Adrien, est-ce que tu peux nous dire, on en a un peu parlé là en filigrane avec le sujet de la grande démission dont on a parlé tout à l'heure et puis la surcharge qui a été liée intimement à la pandémie, on a parlé de ces choses-là, mais quelle est ta vision ? Ce sera la dernière question de ce podcast et puis tu vas nous dire un petit peu comment tu vois en réalité le monde du travail de demain.
C'est une assez grande question. Je pense que les années qu'on va vivre vont être déterminantes par rapport à la façon dont les choses vont se passer. Alors, je suis un très mauvais prospectiviste parce que c'est pas mon métier, j'ai pas la compétence pour le faire. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le marché du travail se transforme beaucoup en mode tâcheron, c'est-à-dire de plus en plus de personnes qui sont liées à des activités à la tâche, à une baisse, on va dire, des synergies collectives qui font pourtant à la fois l'innovation, l'audace et la santé mentale en situation de travail. Je ne suis pas très optimiste par rapport à l'évolution de la santé mentale au travail de nos collaborateurs parce que les modes d'organisation du travail que l'on voit aujourd'hui me paraissent aujourd'hui beaucoup plus individualisants. Alors, pour quelqu'un comme moi, c'est très bien pour mon entreprise parce que nous, on a beaucoup de travail à faire. Malheureusement, je crois que si on veut prendre soin collectivement les uns des autres et donc faire lien, être citoyen tous ensemble, on ne peut pas passer 8 heures par jour à déliter les collectifs et ensuite vouloir faire société de façon pacifiée. Donc ça me questionne un petit peu d'un point de vue certes de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue citoyen.
Ok, écoute, ça sera la dernière question sur laquelle je t'ai sollicité. En tout cas, merci beaucoup de ton éclairage sur tous ces sujets et merci de ta participation à ce podcast.
Merci beaucoup Marie-Laure.